Dans le fond, une nouvelle autoroute, c'est un peu comme une ligne de coke. Le monde se dit « Ah tiens, je vais prendre ça, je vais être moins saoul, je vais avoir de l'énergie. » Sauf qu'une heure après, qu'est-ce qui arrive? Il te faut une autre ligne de coke. Fait que c'est ça notre problème, en fait. C'est un problème de dépendance à l'automobile.
Alors voilà comment expliquait Marie-France, Catherine Dorion, la députée de Québec solidaire, comment ça se passerait avec le troisième lien à Québec. Ce serait comme une ligne de coke.
Exactement, elle a voulu illustrer la dépendance à l'auto. Elle y est allée vraiment très fort, la métaphore de la ligne de coke, qu'une heure après, tu es obligé d'en reprendre une autre, donc le troisième lien ne suffirait pas, il faudrait construire un quatrième, puis ça n'arrêterait pas. C'est vraiment... il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux et beaucoup à Québec, évidemment. Ça m'étonne que les oreilles soient si chastes d'un coup à Québec, parce qu'ils en ont quand même entendu d'autres avec leur radio. J'ai trouvé aussi que, d'une certaine manière, elle banalisait complètement la cocaïne. Sa métaphore aurait pu être concernant la cigarette, ça aurait été tout aussi addictif. Mais la coke, comme ça, d'emblée, je sais pas, tout le monde ne prend pas de la coke. Il y avait quelque chose d'assez banal là-dedans. Et après les pogos, donc la coke, les populistes de droite de Québec se plaignent, ridiculisent les politiciens qui ont la langue de bois. Ben, Catherine Dorion, c'est une vraie populiste de gauche. Elle n'a pas la langue de bois et elle ne s'arrêtera pas là. Crois-moi, elle va continuer dans ce genre de métaphore. Alors, voilà l'équilibre en voie d'être atteint à Québec. Ça va être divertissant des deux côtés, du populiste de gauche, du populiste de droite.
Est-ce qu'elle parlait en connaissance de coke, de cause?
Ben, je le sais pas, mais en tout cas, elle a vraiment souligné la ligne abondamment.
Oui, la ligne abondamment.
Oui, abondamment.
Ben oui, la ligne de la troisième voie.
Du
troisième lien.
Mais ça va être, cela dit, ça va être vraiment particulier à lire, à suivre, parce que c'est donc une députée à part entière. Ils sont 10, ils sont pas beaucoup, donc on va les entendre parler.
Oui.
Et elle a un parcours très atypique, poétesse,
Elle a la réputation d'aller, comme on dit, du point A au point B en ligne droite.
Exactement.
Alors, ça donne ça aujourd'hui. Oui. Et évidemment, c'est un peu comme le sujet du jour. Quelle bizarre de comparaison et tout ça. Le prix littéraire des collégiens devrait-il être soutenu par le géant Amazon? On est en plein Salon du livre.
Ça se passe juste sous nos pieds, à la place Bonaventure. Et c'est un prix qui est remis depuis 15 ans maintenant. C'est un beau prix. Il y a 62 cégeps, des profs dévoués, des étudiants motivés qui débattent autour de 5 livres de jeunes auteurs québécois. Ça fait 15 ans que ça existe et ça éveille les jeunes à l'amour de la littérature et la littérature d'ici. Et c'est un miracle. On en parle souvent. On est dans une population où il y a vraiment un très fort pourcentage d'analphabètes. Alors, d'éveiller des jeunes garçons, des jeunes filles à la lecture, de leur faire aimer ça, d'en faire débattre, des profs qui se dévouent autour de ça, et ça donne des gens qui vont être allumés pour la vie. Alors, ce prix-là est porté par une fondation privée, vraiment dédiée, la Fondation Marc Bourgie, qui, à chaque année, cherche des commanditaires, des partenaires. Et sur l'affiche qui dévoilait les 5 finalistes cette année-ci, on a vu apparaître le logo d'Amazon. Ça a jeté comme commanditaire principal et ça a jeté vraiment un émoi et un froid dans le milieu littéraire. Amazon, c'est bien sûr le géant de Seattle, une plateforme de vente en ligne, toutes sortes de bébelles possibles et inimaginables, accessoirement des livres. Au départ, on s'en souvient, il y a quelques années, ils ont commencé avec des livres. Et sais-tu où Amazon fait son argent? Dans quoi ils font exactement leur fortune?
Dans la vente des livres électroniques.
Pas pantoute.
Non.
Dans les serveurs. Les serveurs sur lesquels on stocke, ils louent l'espace de disques partout dans le monde pour tous les clouds du monde. Et ça leur permet de vendre à des prix qui défient toute compétition et parfois même de carrément avoir des stratégies pour faire mourir des détaillants dans un domaine particulier. Amazon, c'est pas particulièrement le fun ce que ça fait. Et donc, ils soutiennent la littérature québécoise. C'est une décision qui est dénoncée par plusieurs joueurs du milieu du livre, dont les finalistes. La ministre de la Culture trouve que ça pénalise les jeunes. Et est-ce qu'il faut donc... Ils ont décidé le prix de suspendre le prix pour cette année. Ils vont réfléchir au fait, est-ce qu'ils prennent la commandite d'Amazon ou pas. Amazon, donc, vend des livres et passe par-dessus les libraires. Et le milieu du livre au Québec, comme toute la culture au Québec, c'est très fragile. C'est un commanditaire gênant. Pour beaucoup, c'est un commanditaire gênant. Mais est-ce qu'il faut donner le prix avec Amazon ou refuser que le loup rentre dans la bergerie? Parce que si on n'a pas Amazon, le prix peut disparaître. et on perdrait du coup un incitatif à la lecture. Si on accepte Amazon, on affaiblit le milieu très précaire du livre qui vit à travers les libraires, et les libraires sont souvent ceux qui vont donner le goût de lire, qui vont donner des conseils. Et là, les gouvernements se sont désinvestis de ce prix-là, et au fond, on est dans la même situation que les festivals de films face à Netflix, par exemple. Sans Netflix, ils perdent du terrain. Avec, ils affaiblissent le circuit des salles. C'est exactement la même chose. Et les nouvelles plateformes font maintenant partie du paysage. Ce sont des joueurs majeurs. Ils vont détruire des pans du système culturel traditionnel. Alors, je n'ai pas la réponse, Paul. Est-ce qu'il faut résister ou il faut capituler? Dans tous les cas, il va y avoir des pots cassés. Ici, en gros, on perd des lecteurs où on perd des libraires. Je caricature un peu, mais à terme, c'est ça.
Oui,
mais
c'est bien posé comme question, parce qu'il y a des gens qui vont dire la transformation est déjà faite.
Absolument, oui.
On veut, bien sûr, parce que je pense que c'est bon pour une société, qu'elle lise beaucoup, lisent beaucoup.
C'est un enjeu ici.
Oui, on dit souvent que le royaume de la lecture, c'est l'Islande. En Islande, là, c'est absolument incroyable. Ils avaient, je pense, à un moment donné, 11 quotidiens à Reykjavik, et quand même pas une grande capitale à travers le monde. Les gens sont avides de lecture et ça donne évidemment un résultat que les Islandais sont réputés pour avoir de très belles conversations.
Ouais.
Tout ça pour dire que quoi? On veut que les jeunes lisent, mais ils ne lisent pas peut-être traditionnellement par les moyens traditionnels.
Ou qu'ils n'achètent pas par les moyens traditionnels. Oui, on achète de moins en moins par les moyens traditionnels. Et dans le cas d'une culture fragile comme celle de la culture québécoise, les intermédiaires sont vraiment importants. Les libraires ont un rôle à jouer. Amazon ne te conseille pas. Et quand tu cherches un livre québécois, cherche un livre de Michel Tremblay, fais l'exercice sur Amazon, c'est pas le premier qui va t'être proposé.
Je l'ai pas fait.
Faut vraiment que tu cherches.
Même avec Amazon.ca.
Oui, alors imagine dans le cas de jeunes auteurs qui commencent. C'est toujours l'intermédiaire d'un libraire qui va t'éveiller, qui va te regarder, qui va te dire, toi, Paul, si tu lis telle affaire, tu vas aimer ce nouvel auteur-là.
Ah ben oui, c'est comme ça qu'il procède.
Amazon ne fait pas vraiment ça. Donc, c'est tout ça qui est en jeu.
Ben, ils procèdent de cette façon-là quand ils te vendent un cossin quelconque. Ils vont dire, si vous avez acheté ceci...
Ah oui, c'est un algorithme, bien
ben
sûr.
Ben oui, c'est ça, exactement. Ouais. Alors, on va parler de cette campagne de sensibilisation aux agressions sexuelles. Une campagne, je vous le dis tout de suite, qui n'existe plus, mais elle a été, je dirais, diffusée de 2012 à tout récemment. Et elle est visée par des regroupements d'aide aux victimes.
En fait, c'est une bonne nouvelle. Présentée comme ça, ça a l'air un peu... il s'est passé quelque chose. C'est une bonne nouvelle, un signe que les gestes de prévention assez conventionnels... Dans les gestes de prévention assez conventionnels, le mouvement MeToo est passé et c'est une bonne chose. Donc, comme tu le dis, la SPVM avait depuis 2012 une campagne de sensibilisation aux agressions sexuelles. Ça s'appelle « Je sors avec ma gang, je repars avec ma gang ». C'est pour sensibiliser les jeunes femmes, précisément de 18 à 24 ans, dans les bars, aux précautions à prendre pour ne pas devenir victime d'agressions sexuelles. Et le point qui faisait problème, c'était que la surconsommation d'alcool peut rendre une personne vulnérable aux agressions sexuelles. Et c'était un peu comme dire « Ben oui, mais elle avait une jupe courte, elle l'a bien cherchée ». Et ce n'est que tout dernièrement, comme tu le disais, que certaines voix, dont le regroupement des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, a levé le drapeau. Et malgré le fait que dans cette campagne-là, on rencontrait aussi les propriétaires de bars, les employés, les clients, et la responsabilité ultime était quand même mise sur les jeunes femmes. Culpabilité, responsabilité. Et là, je salue le mouvement MeToo et c'est sûrement ça qui a accroché le drapeau. MeToo est passé par là et nous sensibilise au fait que les femmes ne sont pas des proies. Il faut sensibiliser les clients hommes. Il faut éduquer en ne laissant pas entendre que trop boire, ben c'est la porte ouverte aux abus. Tout comme être en position d'infériorité au travail, par exemple, face à une figure d'autorité, ce n'est pas une incitation à l'agression. Bref, les femmes ne sont pas des propriétés publiques. Et le SPM, il faut l'applaudir, a reconnu l'ambiguïté très simplement et a retiré le dépliant. Ils vont reviser la stratégie. Alors, bravo au regroupement des centres d'aide pour leur vigilance. Bravo au SPVM pour leur coopération éclairée. Vraiment, il n'y a pas eu de discussion. Ça a été, ben oui, humilité. Mm-hmm. On reconnaît la chose. Et bravo à MeToo pour avoir précisé les balises. Vraiment une histoire sans incident, qui est toute petite, mais qui indique que même modestement, des choses changent quand les institutions sont impliquées. depuis le mouvement MeToo. Tu sais, on se demandait, y a-tu des différences? Elle est petite, celle-là, mais je tenais à la souligner.
Merci beaucoup, Marie-France.
À demain,
Paul. Et à demain.